Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter en effet cet ouvrage. Alors, je voulais commencer peut-être par vous raconter l'histoire brièvement de ce livre qui, comme l'a dit Jean-Yves, est en effet à la fois un recueil d'articles donc, que j'ai publié au cours de ma carrière qui commence à être assez longue maintenant, et il y a aussi des textes inédit, et même si en effet ce livre peut apparaître comme un livre peut-être fait de morceaux, si j'ai décidé de le publier, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait une réelle cohérence et le fil conducteur tourne autour de cette question du totalitarisme. Il y a en effet un débat depuis longtemps à propos du fascisme italien sur le fait de savoir si, oui ou non, c'est un régime totalitaire, donc, il y a eu un débat en amont même de cela sur le concept de totalitarisme. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas forcément ces débats, le concept est apparu donc dans l'entre-deux-guerres. En fait, le mot totalitaire est apparu d'abord pour caractériser le fascisme dans un sens négatif. C'est un mot qui est né dans l'opposition antifasciste, démocrate chrétienne, pour donc dénoncer ce qu'il pouvait y avoir de liberticide, d'effrayant dans le fascisme. Et les fascistes ont repris à leur compte le mot, c'est aujourd'hui on appellerait ça l'inversion du stigmate, ils ont repris à leur compte le mot pour en faire quelque chose qu'ils étaient prêts à assumer, à savoir un projet de révolution anthropologique et de transformation totale, non seulement de la société, mais de l'individu dans ce qu'il pouvait avoir de plus intime. Donc, et c'est ce projet de révolution anthropologique, à partir d'un certain nombre de valeurs, on en reparlera, qui fait la singularité donc de ce totalitarisme fasciste. Mais il y a eu toute une école de sciences politiques, bon, dès les années 30, qui a établi des parallèles entre le régime communiste tel qu'il se construisait en Union soviétique, le fascisme, le national-socialisme. Et vous connaissez sans doute Hannah Arendt. Hannah Arendt a écrit donc des ouvrages sur les origines du totalitarisme, donc cet ouvrage, où elle réfléchit sur le national-socialisme et sur le communisme, accessoirement sur le fascisme, pour conclure que le fascisme n'est pas totalitaire. Bon, alors qu'il ne fait aucun doute que les deux autres régimes le sont. Alors, le débat, je dirais, il était double. Il y avait d'abord un débat sur la pertinence du concept de totalitarisme. Est-ce qu'il est légitime ou non de comparer le communisme et le national-socialisme, sachant que, et le fascisme donc, sachant que pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1941, c'est une lutte à mort qui est engagée entre ces régimes, et sachant aussi que les projets de société sont radicalement différents. Hein, donc, il y a eu toute une critique de ce qu'on a pu appeler l'école totalitaire, je ne vais pas ici rentrer dans le détail, qui mettait en cause encore une fois la pertinence même du concept et qui reprochait d'ailleurs aux tenants de cette école totalitaire de vouloir discréditer le communisme, le rêve de société communiste, en mettant dans le même sac donc nazisme et communisme. Et j'ouvre une petite parenthèse, mais aujourd'hui, en troisième, les élèves étudient justement les totalitarismes comme un tout. Comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de temps quand on est en troisième enseignant d'entrer dans les détails, justement. Et je ne sais pas ce qu'ils peuvent retenir après coup de cet enseignement, mais probablement, finalement, que c'est une seule et même chose. Ce qui est une absurdité fondamentale parce que le fascisme et le national-socialisme se construisent contre le communisme. Hein, je veux dire, on est absolument aux antipodes. Mais, néanmoins, il y a en effet eu un certain nombre de dimensions communes, dans le mode de fonctionnement de ces régimes, dans la répression, dans la terreur, dans le rôle du parti, etc. Donc c'est une affaire compliquée que celle du totalitarisme. Donc il y a un débat qui a existé à propos du concept, de manière générale, et il y a un débat plus spécifique qui est intervenu à propos de l'Italie. Est-ce que, oui ou non, ça faisait sens d'utiliser donc cet adjectif totalitaire pour le fascisme italien? Alors, ça pouvait sembler bizarre d'écarter l'Italie du cercle des régimes totalitaires, sachant que le mot avait été créé au départ pour le fascisme italien. Mais comme Mussolini a eu un disciple qui est ensuite devenu son maître, Hitler, c'est un fait que le national-socialisme comme régime totalitaire est apparu ensuite comme étant beaucoup plus achevé, beaucoup plus abouti donc que le fascisme italien, et donc la mémoire collective a retenu comme modèle le national-socialisme en oubliant que le modèle de départ donc c'était le fascisme italien. Alors pour Hannah Arendt donc par exemple, le fascisme italien n'est pas totalitaire, et elle est sans arrêt dans une analyse comparée avec l'Allemagne national-socialiste. Alors, les Italiens ont tout fait, mais sur un mode qui était à l'italienne, bon, avec les préjugés qui entourent les Italiens. Donc, ils ont persécuté les Juifs, mais c'était pas très sérieux. Il y avait une répression, mais ça n'avait rien à voir avec... ce qui n'est pas faux complètement, pour la répression, par exemple. Mais ça n'avait rien à voir avec les SS ou la Gestapo, etc., etc. Voilà. Et en Italie même, donc, le concept de totalitarisme était vu, et pas seulement qu'en Italie d'ailleurs, comme un outil de guerre froide, justement, comme quelque chose qui permettait de mettre en accusation le communisme. Et donc, cette grille d'analyse a été longtemps laissée de côté par les historiens. À l'exception de deux historiens qui ont joué un rôle pionnier dans la redécouverte de la pertinence heuristique, c'est-à-dire de la pertinence épistémologique, si vous voulez, de ce concept. Le premier de ces historiens étant Renzo De Felice, qui a été un immense historien du fascisme, qui a fait une œuvre colossale, qui est une biographie de Mussolini, qui fait plusieurs milliers de pages, qui est en fait une histoire du fascisme. Et comme c'est colossal, ça n'a pratiquement pas été traduit en français. Et dans son sillage, un autre historien a repris à son compte ce concept, Emilio Gentile, dont l'œuvre, cette fois, a été pas mal traduite en français. Mais je dirais, jusqu'aux années 90, comme le contexte de guerre froide était toujours là, que l'Italie est un pays où le parti communiste, où la culture politique communiste ont été jusqu'aux années 90 très présentes, très importantes, les historiens avaient plutôt tendance à ne pas vouloir utiliser cette grille de lecture. Et il a fallu donc les années 90 et que les choses s'apaisent, mais que les enjeux politiques se réorganisent autrement pour que l'on considère donc qu'il pouvait être peut-être pertinent donc d'utiliser ce concept. Alors, il se trouve que pour ma part, je l'ai tout de suite intégré dans mes propres spéculations donc sur ce que pouvait être cette réalité du fascisme italien, et c'est donc un fil rouge interprétatif qui parcourt l'ensemble des textes qui sont dans ce livre, même si je tourne, si vous voulez, autour de la question avec une approche qui peut être différente, en essayant de voir ce qu'est le totalitarisme dans son versant le plus terrible, c'est-à-dire la violence, la répression, le racisme, l'antisémitisme, mais en essayant de le voir aussi comme une forme d'utopie qui peut nous faire rire, on le verra comment, mais cette utopie qui visait à changer les comportements aussi, et on ne peut pas isoler une face, la face répressive, de la face plus constructive, entre guillemets, c'est-à-dire qui visait à prescrire des comportements, des façons de parler, des façons de rire, etc., aux individus. Donc je l'aborde à la fois sous l'angle d'une histoire culturelle et sociale, sur un certain nombre de thèmes, sous l'angle d'une histoire idéologique et politique, et à travers l'histoire de la répression et de la violence, et en gros ce sont les trois parties donc, qui structurent le livre. Alors, avant de rentrer dans, plus spécifiquement dans le vif du sujet, je vous disais que je voulais vous raconter l'histoire du livre parce que c'est assez amusant. Il se trouve que, donc, il y a, je ne sais pas, maintenant peut-être trois ans, les droits relatifs aux écrits de Mussolini sont tombés dans le domaine public. Donc, il est devenu possible de publier du Mussolini sans verser de droits. Et donc, j'avais été contactée à ce moment-là par un éditeur, ami d'amis de longue date, qui voulait republier un texte, qui est un texte assez ardu d'ailleurs, dont il existait trois versions en français. Ce texte, c'est « La doctrine du fascisme ». Alors, « La doctrine du fascisme », c'est un texte qui a été écrit au début des années 30, par en partie Mussolini, mais surtout Giovanni Gentile, alors c'est un autre Gentile qui n'a rien à voir avec l'historien dont je vous parlais, qui était un philosophe, donc une des grandes figures intellectuelles du régime, un philosophe idéaliste qui a probablement été le philosophe, enfin pas probablement, qui a été le philosophe du fascisme, mais après avoir été une grande figure donc de l'idéalisme, disciple de Crotch, enfin disciple avec une relation compliquée donc, mais proche d'une certaine façon et critique à l'égard de Croce. Et c'est en particulier Gentile qui a proposé une réflexion philosophique sur l'État, sur le rapport entre l'individu, la société et l'État, en construisant une doctrine de l'État qui fait de l'État un absolu. Hein, un absolu. Et je dirais, c'est là, en partie, le cœur de cette doctrine du fascisme. Alors, ce texte, il a été écrit à deux mains, donc à la fois par Mussolini et par Gentile. Ce texte a été publié en français, oui, alors j'ai oublié de vous dire cela, donc pourquoi avait-il été rédigé à l'époque, donc, parce que, avec le soutien du régime fasciste, est lancé, donc, à la fin des années 20, un grand projet scientifique. Ce grand projet scientifique, c'est celui d'une encyclopédie, l'encyclopédie Treccani, donc c'est le nom de la maison d'édition, de l'éditeur, et qui dit grande encyclopédie, dit nécessairement, à un moment où le fascisme est au pouvoir depuis presque 10 ans, donc un article sur le fascisme. Et à qui peut-on demander cet article? Ça ne peut être qu'à celui qui en est l'inventeur, c'est-à-dire Mussolini. Or, il se trouve qu'avant cet article, la rédaction de ce texte, donc, il n'y avait pas véritablement de texte à statut, de mise au point doctrinale à propos du fascisme. Il y avait eu quelques tentatives, il y avait bien évidemment des textes du parti fasciste, des écrits d'intellectuels ici et là, mais pas quelque chose qui pouvait être présenté comme étant l'équivalent de Mein Kampf, par exemple, pour l'Allemagne. Et donc, Mussolini s'est dit, c'est l'occasion peut-être de faire un texte, ce sera une espèce de texte canonique, donc, auquel on pourra désormais se référer et qui permettra aussi de diffuser la doctrine fasciste, donc, de par le monde. Voilà, donc, ce texte est rédigé. Ce texte est un texte compliqué, avec une première partie un peu théorique Alors j'avoue que je ne sais plus dans quel ordre c'est. Oui, mais je crois que c'est ça. C'est la première partie qui a été rédigée d'abord par Gentile et qui est une partie plus théorique, et la seconde par Mussolini lui-même et qui est beaucoup plus pragmatique, politique également, et moins philosophique. Mais c'est un texte compliqué, hein, et si vous n'avez pas un paratexte à côté, un appareil critique, un texte qui vous explique ce qu'il en est, en gros, vous ne comprenez pas ce qu'est le fascisme, ou il faut vraiment l'étudier pour que le texte soit accessible. Donc, j'étais un peu étonnée que l'éditeur en question me contacte et qu'il ait l'idée de publier ce texte. Et puis, en discutant avec lui, je commence à comprendre un peu ce qu'il avait en tête. Et ce qu'il avait en tête, c'était la crainte d'une arrivée du Front National au pouvoir, à l'époque qui n'était pas encore le Rassemblement National. Et il voulait, à travers la publication de ce texte, parler du danger fasciste pour la France, donc, des années 2000. Alors, une fois que je comprends ça, je lui dis, si tu comptes sur moi pour crier au danger fasciste à propos de Marine Le Pen, tu te trompes, parce que je veux bien faire une lecture historique de ce texte, mais je suis contre les instrumentalisations politiques, quelles qu'elles soient, et il y a indéniablement, de mon point de vue, là je sors un peu de mon statut d'historienne, il y a indéniablement un danger pour la démocratie si le Rassemblement National arrive au pouvoir, mais on ne peut pas comme ça dire c'est du fascisme, c'est autre chose, c'est pas du fascisme. Bon, très bien, non, c'est pas ça, je veux un vrai texte historique, etc. Donc je fais la préface, je lui envoie ma préface avec un gros travail quand même critique sur le texte, et les épreuves m'arrivent, et quand les épreuves m'arrivent, la préface était assortie d'une postface avec le nom de quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qui expliquait, donc j'essayais dans l'introduction de faire un texte nuancé en donnant un certain nombre de critères pour caractériser le fascisme, et le texte disait ce que je ne voulais pas dire, c'est-à-dire le fascisme est à nos portes, il faut s'engager, fascisme en plus des analyses assez archaïques de ce qu'était le fascisme, qui faisait penser aux analyses d'un Bordiga, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire italienne dans les années 20. Bref, bon, je finis par découvrir que la personne qui avait écrit le texte était finalement l'éditeur lui-même, qui donc avait ajouté en postface ce qu'il voulait me faire dire et que je n'avais pas dit. Voilà, donc l'histoire est celle-là, et après cela, donc j'ai retiré, je lui ai dit, il n'est pas question que ça sorte avec ce texte-là, donc j'ai retiré mon texte, et à partir de là, j'ai fait un texte plus approfondi sur l'idéologie, donc, et la doctrine du fascisme, en essayant donc d'expliquer que voilà ce qu'était réellement d'un point de vue historique le fascisme. Alors, il y a un besoin donc de revenir à l'histoire, me semble-t-il, dans le contexte actuel, d'abord parce que le mot fasciste est employé à tout propos, donc est devenu une forme d'invective dans la vie politique qu'on utilise donc pour discréditer en général un adversaire politique. Et je pense qu'il vaut mieux l'utiliser à bon escient, encore une fois. Il y a mille et une façons de dénoncer des adversaires de la démocratie sans immédiatement crier au fascisme. C'est important aussi de faire savoir ce qu'a été le fascisme, parce qu'il y a par ailleurs une entreprise de réhabilitation du fascisme à l'heure actuelle, en Italie, en particulier, mais pas seulement en Italie, qui va de pair avec l'émergence des nationalismes, l'émergence des populismes, et certains acteurs des populismes. C'est le cas, par exemple, d'un Salvini en Italie aujourd'hui, eh bien, contribue à ce que Emilio Gentile a appelé à juste titre la défascisation du fascisme. Et récemment, là, il y a toute une polémique en ce moment, parce qu'il y a un responsable italien, justement, qui, alors je crois que c'était au Parlement européen, a fait une déclaration en disant, en gros, Tajani, en gros, si on enlève la Seconde Guerre mondiale, les lois raciales, l'assassinat de Matteotti, le fascisme, il y a eu aussi des bonnes choses. Hein, et c'est un discours qu'on entend dans la bouche de Salvini également, qui est un habile politique et qui fait des clins d'œil à l'extrême droite néo-fasciste, car il existe une vraie extrême droite néo-fasciste qui se revendique donc de cet héritage du fascisme en Italie. Alors, cette défascisation du fascisme, elle passe précisément par cet exercice-là, qui consiste à dire, au fond, il y a, on peut faire son marché hein, dans le fascisme, il y a du bon, il y a du moins bon, et tout n'est pas à jeter en bloc. Ça rappelle un peu, à certains égards, le débat qu'il y avait à propos de la Révolution française, hein, savoir si on pouvait prendre la Révolution comme un bloc ou pas. Bon, en l'occurrence, il faut prendre le fascisme comme un bloc, évidemment. Hein, c'est-à-dire que les lois raciales, la Seconde Guerre mondiale, Matteotti, ce ne sont pas des accidents de parcours, mais ça participe d'une logique d'ensemble qui est celle du fascisme. Alors, justement, venons-en peut-être à présent à cette logique d'ensemble. Et il y a un chapitre auquel je tiens dans mon livre, enfin je tiens à peu près à tous les chapitres, mais il y a un chapitre donc que j'ai tenu à écrire et à faire intervenir en premier, qui est le chapitre précisément consacré à la violence. Car au départ, le fascisme italien, c'est une affaire de violence. Hein, on l'a un peu oublié. On l'a oublié en particulier parce que le national-socialisme est allé beaucoup plus loin dans l'exercice de la violence, mais c'est dans cette identikit donc du fascisme, c'est absolument fondamental. Alors, la violence, elle intervient comment? Elle intervient d'abord comme un héritage, mais et là aussi, je veux dire, si on contextualise les choses comme ça, on ne peut pas se livrer à toutes les comparaisons. Je crois fondamentalement que sans la guerre, il n'y a pas le fascisme. Le fascisme est véritablement une conséquence de la guerre, de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, de cette culture de guerre donc, dont a parlé Mossé et dont ont parlé d'autres historiens après lui, c'est-à-dire l'habituation des sociétés pendant 4 ans à la violence, cette violence qui s'est insinuée dans la vie quotidienne des individus, cette violence qui est devenue une pratique au front et une pratique de ces anciens combattants. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et je vous renvoie au chapitre, mais bon, c'est quelque chose qui était connu, hein, mais que je rappelle, parmi les cadres, les fondateurs des faisceaux de combat, et là on va célébrer un siècle hein, de fondation, donc c'est une histoire maintenant qui est ancienne, puisque les faisceaux de combat sont fondés à Milan, donc en mars 1919, donc, et bien parmi les fondateurs des faisceaux de combat, vous avez beaucoup d'anciens combattants, anciens étant un adjectif, comment dirais-je, un peu abusif, hein, puisque ces anciens combattants, ce sont des jeunes gens qui sont rentrés du front, qui sont rentrés souvent traumatisés, souvent frustrés, parce qu'ils attendaient de cette guerre un changement et un renouveau qui n'est pas venu, et parce qu'ils croyaient aussi beaucoup au discours nationaliste qui avait laissé espérer à l'Italie beaucoup plus donc de territoire que ce qu'elle n'a effectivement obtenus à l'issue de la guerre. Et donc, sans la guerre, on ne comprend pas la grande frustration nationaliste qu'il y a en 1919 en Italie, et on ne comprend pas non plus cet activisme qui ne quitte pas certains de ces combattants revenus du front, qui explique, et Gentile, par exemple, on a des déclarations de Gentile lui-même, qui dit à ce moment-là, nous allons continuer la guerre autrement. La guerre continue. Elle n'est pas finie. Elle continue, donc, dans la vie civile. Alors, c'est connu, mais parmi les premiers rites du fascisme, par exemple, l'utilisation du couteau, du poignard, pour prêter serment de fidélité au parti, eh bien, ce sont des rites qui sont hérités des arditi, hein, les arditi étant les troupes de choc, les hommes qui allaient à l'affrontement de corps à corps dans les tranchées, donc les plus audacieux, en quelque sorte, des combattants. Hein. Donc, encore une fois, cette culture de violence, elle passe directement dans l'ADN du fascisme, dès l'origine du fascisme. Et une fois les faisceaux créés, en mars 1919, eh bien, cette culture de la violence, elle continue sous forme de travaux pratiques, puisque l'autre caractéristique donc, du fascisme, c'est de naître en opposition radicale à la démocratie, le socialisme et le communisme. Hein. Et ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait important, qu'il est bon de rappeler, hein, parce qu'on a beaucoup sur les réseaux sociaux et sur certains sites d'extrême droite, mais qui se présentent de manière ambiguë, je pense à Égalité et Réconciliation, on trouve beaucoup cette idée, ah mais Mussolini c'était un ancien socialiste, ah mais Mussolini il avait lu Sorel et il connaissait Proudhon, oui. Mais la raison d'être, effectivement, Mussolini il venait du syndicalisme révolutionnaire, mais il a évolué. Et ensuite, à quoi servent les faisceaux dans l'immédiate après-guerre en Italie? Eh bien, à casser du socialiste, à casser du communisme, à organiser des expéditions punitives meurtrières avec des centaines, quelquefois des milliers d'individus, qui sont au fond des formations paramilitaires hein, qui vont attaquer les paysans, les ouvriers, les socialistes, les communistes. C'est cela le fascisme à la naissance. Alors je ne dois pas vous faire un cours mais simplement une conférence, donc je ne vais pas revenir en arrière, mais ce qu'il faut savoir aussi, et c'est pour ça que la Grande Guerre est absolument fondamentale, eh bien c'est qu'après la guerre, il y a d'un côté une frustration nationaliste très importante en Italie, mais vous avez aussi une immense, un immense espoir qui naît au sein des masses populaires pour des changements, avec en plus le modèle de la révolution bolchévique qui se déroule donc depuis 1917 en Russie. Et pendant deux années, en 1919-1920, il y a des grèves, il y a des occupations d'usines, il y a des occupations de terres par la paysannerie. C'est ce qu'on va appeler le Biennio Rosso, les deux années rouges en Italie. Et donc, c'est en réaction à cela que sont créés les premiers faisceaux de combat, ces milices, donc, qui vont peu à peu démanteler tout ce mouvement ouvrier, qui vont démanteler ces organisations paysannes. Donc il y a une force de répression, littéralement, avec ces milices fascistes, qui d'ailleurs souvent sont payées par le patronat, par les grands propriétaires, qui les utilisent littéralement hein, comme des auxiliaires de la police, pour rétablir donc un ordre conservateur bourgeois dans les campagnes et dans les villes italiennes. Alors, la violence, elle est présente d'emblée, elle est présente comme héritage, elle est présente comme pratique, Et ça, c'est peut-être moins connu, et c'est pour ça que j'ai voulu insister beaucoup là-dessus, aussi parce que les contemporains l'ont peut-être moins vu, parce que la violence était une évidence pour les contemporains. Hein, pour tous les antifascistes, je veux dire, ils avaient en mémoire Matteotti, ils avaient en mémoire les paysans qui avaient été tabassés, ils avaient en mémoire les expéditions avec des gourdins, avec de l'huile de ricin. Ça, je dirais, c'était la version soft, hein, la version la plus douce des expéditions punitives.
Comment ? À haute dose, l'huile de ricin.
Voilà, l'huile de ricin, enfin, j'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est pas très bon. Voilà, donc ça, c'était la version soft, mais la version, évidemment, la plus dure, c'était des morts, des blessés. On estime qu'il y a eu environ 3000 tués, quand même, au cours des années du Biennio Nero, donc de ce qui a été une forme de guerre civile. Et parmi ces 3000 tués, vous en avez à peu près trois quarts qui sont les victimes des fascistes. Hein. Donc il y a eu de la violence des deux côtés, mais une violence qui était nettement plus offensive d'un côté et défensive de l'autre, même s'il y a eu aussi des violences du côté communiste et du côté socialiste. Mais encore une fois, il y a une dissymétrie dans l'usage de la violence. Alors, violence donc en héritage, mais aussi violence pratique et violence dans l'idéologie. Et ce qui est tout à fait singulier par rapport justement aux autres totalitarismes, et notamment au communisme, qui a utilisé, hein, le régime soviétique a utilisé la violence sur une échelle de masse, mais avec une justification de la violence qui n'est pas la même. Et ça, c'est intéressant. Alors, on peut dire que c'est des subtilités d'historiens. Et à la fin, ce qui compte, c'est le nombre de morts. Et il y en a eu des millions, comme vous savez, dans l'URSS de Staline et même après. Hein, et c'est indéniable. Mais pour des fins qui n'étaient pas les mêmes et avec une justification qui n'était pas la même. Je me permets de boire une gorgée et je précise ma pensée. Quelle est, au fond, la différence ? Encore une fois, je ne suis pas en train de justifier l'emploi de la violence telle qu'elle a été faite à une échelle de masse par les régimes communistes. Hein. Et en nombre de morts, il y en a probablement plus de ce côté-là. Mais dans la doctrine communiste, il y a cette idée, au fond, de la violence accoucheuse de l'histoire, de la violence qui est un moyen pour un certain nombre de fins, pour que la bourgeoisie abandonne ses privilèges, etc., etc. Et cette idée de la violence accoucheuse de l'histoire, c'est une idée qu'on va retrouver ensuite à l'extrême gauche, dans les années 60, 70, et d'une certaine façon, qu'on retrouve aussi dans le mouvement social d'aujourd'hui. Et si on veut vraiment être un analyste précis des événements actuels, on peut quand même se demander s'il n'y avait pas eu les violences du début, si le gouvernement aurait cédé sur un certain nombre de points. Hein. Il y a un certain nombre de concessions qui ont été faites au début du mouvement des Gilets jaunes parce qu'il y avait la crainte justement d'une explosion. Hein. C'est indéniable. Bon, et quand je vous dis ça, je ne suis pas en train, encore une fois, de justifier, mais simplement d'établir une corrélation que n'importe qui peut établir. Alors, pour, disons, dans la tradition communiste, dans la tradition socialiste, il y a encore une fois cette idée, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, la révolution n'est pas un dîner de gala, c'est toutes ces formules qu'on va entendre pour justifier la violence, qui est considérée comme quelque chose de négatif sans doute, mais qui, à la fin, est nécessaire. Dans les textes fascistes, et notamment chez Mussolini, il y a une justification de la violence pour elle-même, avec cette idée, alors ça dépend des contextes, hein, Mussolini est quelqu'un qui a pu dire tout et son contraire. parce que c'était un habile politique, parce qu'il était aussi opportuniste, et donc suivant les contextes, les auditoires, il pouvait se montrer sous un jour plutôt pacifiste ou sous un jour plutôt belliciste. Mais il y a des textes de Mussolini et de hiérarques fascistes et des documents d'archives où l'on voit que la violence, eh bien, elle a des vertus, mais en tant que telle, pour les fascistes, parce qu'elle renvoie à ces valeurs qui sont les valeurs, pour le coup, présentes d'emblée dans cet agrégat idéologique qu'est le mouvement fasciste, futurisme, nationalisme, avec cette idée au fond. Alors, le courant futuriste, par exemple, le futurisme, qui est un mouvement à la fois esthétique et politique, fait l'apologie de la violence, fait l'apologie de la guerre, hein, avec cette idée que, de la violence et de la guerre sortira une société rafraîchie, entre guillemets, hein. Cette idée de la guerre fraîche et joyeuse, eh bien, elle va être effectivement diffusée par des Marinetti et par les partisans, donc, du mouvement futuriste. Chez les nationalistes aussi, il y a une exaltation de la guerre et de la violence, mais avec cette idée que la violence, au fond, c'est le propre de l'homme, hein, mais de l'homme au sens genré du terme, c'est-à-dire de l'individu viril, donc qui doit être capable d'administrer la violence. Et donc, c'est en ce sens-là un homme, un vrai, pour Mussolini et pour les fascistes, c'est quelqu'un qui doit être capable, sans état d'âme, donc, d'utiliser la violence. C'est un guerrier. Il y a ce mythe du guerrier, véritablement, alors qu'il va ensuite être élaboré en référence à la Romanité, bien évidemment à la Première Guerre mondiale. Et donc, ça, c'est cette exaltation de la violence pour elle-même. Je ne suis pas sûre qu'elle existe dans d'autres idéologies, en tout cas, qui ont pris corps dans l'Europe contemporaine, à part le fascisme. Et donc, c'est une vraie singularité. Mais comme Mussolini a été, encore une fois, un peu ondoyant, qu'il y a eu des discours contradictoires, et que tout en aimant la violence, finalement, tout en adorant la violence, tout en exaltant la violence, les régimes fascistes ont aussi toujours cherché à la justifier. Si vous regardez, par exemple, la politique étrangère de Hitler à partir de 1935, qui est une politique où l'Allemagne agresse sans arrêt, hein, ses engagements, rompt les règles du roi, viole le droit international. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'il y a toujours une justification quand même, comme s'il en était besoin. Hein, on s'appuie sur un incident diplomatique. C'est vrai aussi de l'Italie, par exemple. Mussolini prépare depuis 2 ans le projet d'une guerre donc en Éthiopie, mais il va s'appuyer sur un incident qui est l'incident frontalier de Walwal pour effectivement déclencher donc l'invasion. Hein. Donc il y a cet aspect très curieux des régimes fascistes qui violent le droit, mais qui en même temps ont toujours, parce qu'ils sont dans un univers probablement qui n'est pas entièrement fasciste, mais qui se réfèrent en même temps à une norme et au droit. Donc, si on en revient à la violence est vraiment centrale. Hein, ce rapport à la violence est absolument central. Et dans le contexte actuel de perte de mémoire et d'une certaine façon de défascisation du fascisme, il n'y a pas eu encore de réhabilitation de la violence. Je ne sais pas si ça pourra venir, parce que depuis un siècle quand même, la violence est tenue à l'écart des sociétés démocratiques. Hein, même les mouvements d'extrême droite aujourd'hui, quand ils emploient la violence, ils le font de façon un peu honteuse, mais plus personne, et ils disent toujours l'employer comme une violence défensive, mais il n'y a plus grand monde qui ose aujourd'hui assumer l'usage de la violence. Encore une fois, je dis pour le moment, parce que effectivement, on voit la réhabilitation d'un certain nombre de valeurs aujourd'hui, donc on ne pouvait pas imaginer que ce serait possible il y a deux ou trois décennies. Voilà. Alors, je ne veux pas être trop longue. Donc, cette question de la violence est une question centrale. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir le livre là-dessus. Ensuite, j'ai voulu aussi voir dans les archives l'usage qui était fait de la violence. Alors, je l'avais fait quand j'avais fait ma thèse de doctorat, parce que j'avais travaillé à l'époque sur le fascisme en Sicile. J'avais fait une étude monographique en allant voir ce qu'avait été le fascisme dans une région d'Italie bien particulière, qui était la Sicile orientale, en l'occurrence. Donc, j'avais pu étudier le squadrisme, ses expéditions punitives, etc. Mais, par la suite, j'ai été amenée à m'intéresser, d'une part, à la violence fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, mais d'autre part, à la violence coloniale. Et ça, c'était un aspect important aussi dans mon cheminement intellectuel. Pourquoi ? Alors, parce que Jean-Yves a eu la gentillesse donc de faire venir ce livre sur les persécutions antisémites. Donc, j'ai consacré quelques années de ma vie à étudier l'antisémitisme fasciste et les persécutions antisémites. Et donc, ça occupe la troisième partie de l'ouvrage, ces questions de racisme et d'antisémitisme. J'ai pas mal réfléchi sur les rapports entre racisme et antisémitisme, et maintenant mes travaux portent essentiellement là-dessus. Et pendant longtemps, et je le pense toujours en partie, l'antisémitisme est un racisme, mais un racisme bien particulier qui procède d'une logique qui n'est pas exactement la même que celle d'autres formes de racisme, et par exemple le racisme à l'égard des populations d'origine africaine ou d'origine arabe, ce qu'on appelle les minorités visibles. Bon, et quand j'ai travaillé sur les lois antisémites en Italie, en fait j'ai surtout travaillé sur la genèse de ces lois. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi en 1938, ce régime, qui est au pouvoir depuis plus de 15 ans, donc adopte des lois contre les Juifs, qui sont des lois très sévères, très dures. Pourquoi il a attendu 15 ans, alors qu'il avait tous les pouvoirs ? Et pourquoi, jusqu'en 1938, les Juifs peuvent être à l'intérieur du parti fasciste en Italie, et puis du jour au lendemain, ils deviennent persona non grata, donc, et ils deviennent des parias. Alors, une explication un peu courte et qui a été balayée par l'historiographie consisterait à dire Mussolini a subi des pressions de l'Allemagne et il a voulu, donc, et il a obéi à son allié Hitler. Point. Bon, on sait depuis longtemps qu'il n'en est rien. Il y a eu des travaux d'historiens sur le sujet, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, qui écartaient cette hypothèse. Alors, il y a une autre piste qui consisterait à dire, et ça a été beaucoup dit en 1938, Mussolini a voulu imiter Hitler. Il a voulu faire comme Hitler. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est une explication qui, de mon point de vue, n'est pas suffisante. En fait, il y a ensuite les explications que les fascistes eux-mêmes ont données. Et parmi les explications qu'ils ont données, alors il y en a une première qui est assez fantaisiste, qui consiste à dire on a eu une politique démographique quantitative jusque-là, jusqu'en 1937-1938. Quantitative, ça veut dire une politique nataliste, effectivement. Le régime a mené une politique nataliste. Il n'en était pas vraiment besoin parce que la natalité n'était pas en déclin, mais il y avait cette idée que le nombre, c'est la force, et que les grands peuples devaient aussi être des peuples grands parce qu'ils étaient nombreux. Le déclin de l'Occident, les thèses bien connues, notamment de Spencer, hein, en l'occurrence. Spengler, absolument. Bon, voilà. Et donc, dans la continuité de cette politique quantitative, on passe à une politique qualitative qui consisterait à séparer les juifs du reste, les juifs, les noirs, du reste de la population. Première explication. Deuxième explication, on a conquis l'Éthiopie, on a mis en place une politique raciste en Éthiopie, ce qui est vrai, hein, une forme d'apartheid, pour faire court, a été mise en place en Éthiopie, et dans la continuité de ce qui a été fait en Éthiopie, eh bien, il est logique que, à l'intérieur de nos frontières, on discrimine les juifs, hein, colonies, donc, métropole. Comme si antisémitisme et racisme faisaient un bloc, pour le coup, d'un point de vue idéologique. Or, cette explication-là est une explication de deuxième génération, parce qu'au moment où Mussolini prépare l'invasion en Éthiopie et conquiert l'Empire, il ne pense sans doute pas à persécuter les Juifs, parce que dans l'imaginaire de Mussolini et des Italiens de l'époque, les Juifs, très bien intégrés en Italie, ce sont probablement des Juifs d'Europe les plus intégrés, hein, si en tout cas on en juge par le nombre de mariages mixtes, au point que les rabbins étaient très inquiets et se disaient « qu'est-ce qui va rester des communautés juives dans quelques années ?» Hein, puisqu'ils sont tous en train de se marier avec donc des catholiques. Et donc, les Juifs n'étaient absolument pas vus comme des étrangers de peau, si vous me passez cette expression qu'on utilisait dans les milieux racistes, et d'autant moins que, je vous l'ai rappelé, les Juifs eux-mêmes, ils étaient dans le parti fasciste, ils avaient soutenu la conquête de l'Éthiopie, hein, donc ils étaient clairement dans le camp sociétés, pas les antifascistes, mais en tant que communauté juive, ils ont soutenu la conquête d'Éthiopie, et même les communautés juives disaient, alors peut-être parce qu'il commençait effectivement à y avoir des inquiétudes, hein, voyant ce qui se passait en Allemagne, mais donnaient pour consigne aux populations de soutenir justement, bruyamment même d'une certaine façon, l'entreprise éthiopienne, pour montrer qu'il n'était pas contre le régime. Donc, ça m'a intéressé. Je voulais aller voir un peu si cette thèse-là tenait la route, et donc aller étudier, après avoir étudié les persécutions anti-juives, aller étudier ce qui se passait du côté de l'Empire. Et donc, je suis allée travailler dans les archives de Graziani, qui a été donc vice-roi d'Éthiopie, qui a été l'un des généraux qui ont conquis donc l'Éthiopie, et qui a été l'un de ceux qui a pratiqué donc une politique génocidaire, hein, sans doute, en Éthiopie. Et là, quand on se plonge dans ces archives de Graziani et qu'on voit ce qu'était cette occupation, cette guerre menée contre les Éthiopiens, eh bien, on voit deux choses. D'abord, on voit effectivement, et là, je me permets de vous renvoyer donc au chapitre sur ce sujet, mais on voit effectivement comment cette exaltation de la violence, eh bien, elle est mise en œuvre dans la façon de faire la guerre. Alors, toutes les guerres coloniales sont atroces, hein, c'est une évidence, mais je dirais que là, il y a peut-être un supplément d'atrocité, parce que justement, les fascistes qui sont là ont l'impression de rejouer les expéditions punitives et même de pouvoir aller encore plus loin que les expéditions punitives, parce qu'ils sont justement dans le cadre de l'Empire avec des populations qui sont considérées comme inférieures. Et donc on a des échanges assez ahurissants de la hiérarchie militaire avec un officier qui est considéré comme un officier plus modéré que d'autres, et qui se voient réprimandés parce que, justement, ils n'utilisent pas la force de manière aussi débridée, hein, qu'il faudrait le faire. Et donc, quand on va voir ce qu'était cette attitude vis-à-vis des Éthiopiens et qu'on compare à ce qu'était l'attitude vis-à-vis des Juifs, eh bien, on voit que c'est deux registres de haine qui sont différents. Et l'un ne minimise pas l'autre, mais ça permet simplement d'éclairer l'imaginaire qui est derrière. Quand Mussolini lance la politique anti-juive en 1938, il dit « il faut séparer les Juifs du reste de la population, mais nous ne voulons pas de pogroms, il ne faut pas les persécuter ». Bon, ils sont persécutés, de fait, parce qu'ils sont exclus de l'école, d'un certain nombre de professions, etc. Mais le régime ne cherche pas à encourager des pogroms, ne cherche pas à encourager des persécutions physiques contre les Juifs. Alors qu'en Éthiopie, les soldats s'entonnent à cœur joie et sont même invités à le faire. Donc vous voyez, là, on est dans des univers très différents. Alors, autour de cette question des causes donc, de l'antisémitisme, fascisme, donc, j'ai effectivement beaucoup réfléchi pour écrire ce livre, et le concept de totalitarisme est apparu comme étant très pertinent précisément pour comprendre ce qui m'a aidé à comprendre l'adoption des lois raciales en 1938, c'est-à-dire cette dynamique qui est à l'œuvre dans les régimes totalitaires. Et j'en reviens là au concept, ce qu'explique Arendt et d'autres, c'est que les régimes totalitaires sont des régimes qui ont besoin de tenir les sociétés et les élites dans un mouvement constant. Et il y a cette métaphore du cycliste qui est souvent employée. Si vous ne pédalez pas sur une bicyclette, vous tombez. Donc. Et du coup, ces régimes totalitaires sont sans arrêt, vont de bataille en bataille, de plan quinquennaux en plan quinquennaux, et ont besoin d'ennemis, d'ennemis intérieurs. Et quand on étudie l'histoire du fascisme, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une espèce de course vers l'ennemi, qu'il y a une espèce de fuite en avant vers des projets bellicistes. Alors, quels sont-ils ? Bon, d'abord, il y a les ennemis des années 20, qui, à la fin des années 20, sont pratiquement tous soit aux confines, ou dans les îles, dans le sud, en relégation, soit en prison. Donc, il n'y a plus d'ennemis. Pratiquement, je simplifie, évidemment, il y a un parti communiste clandestin, il y a des antifascistes, mais enfin, c'est quand même un régime extrêmement répressif. Ou alors, ils sont en exil, en France notamment, où beaucoup d'antifascistes vont venir s'installer. Donc, il n'y a pratiquement plus d'ennemis intérieurs. La guerre d'Éthiopie représente un moment d'engagement extérieur qui est couronné de succès qui va susciter un enthousiasme très important en Italie, d'autant plus que l'Italie va être frappée de sanctions par la Société des Nations, puisqu'elle a agressé un État membre de la Société des Nations. Et à la suite, Mussolini va savoir retourner ces sanctions à son avantage, va dire « Regardez ces démocraties nanties, nantis sur le plan colonial, nous qui voulions mettre en œuvre l'impérialisme du pauvre, c'était un des slogans du nationalisme italien, nous n'avons pas le droit d'avoir notre part du gâteau, nous sommes victimes de sanctions, et donc il va réussir comme ça à trouver et même retrouver des soutiens au sein de la population italienne. Et puis les choses se calment, donc ça c'est en 36, l'Empire est proclamé en mai 36. Ensuite, à partir de juillet 1936, le régime se lance dans une autre aventure extérieure, qui est la guerre d'Espagne, bien évidemment. Et là, les choses sont déjà beaucoup plus compliquées. Pourquoi ? Eh bien, parce que des Italiens vont se retrouver face à des Italiens, puisque parmi les volontaires républicains en Espagne, il y a notamment des antifascistes italiens qui vont venir. Et les choses se passent déjà moins bien d'un point de vue militaire aussi. Et puis quoi ? Et puis, à partir de 1937, eh bien, Mussolini commence à imaginer de retirer les Italiens donc, du théâtre espagnol. Et il faut trouver un autre ennemi. Et à ce moment-là, par ailleurs, Mussolini se rapproche de l'Allemagne Il va en Allemagne en septembre 1937, et là je suis en train de vous décrire un contexte très précisément, mais pour comprendre ce qu'a été la décision, il faut aller au plus près du contexte de mon point de vue. Le contexte, là, a une grande importance. Et donc, en septembre 1937, Mussolini va en Allemagne et il revient très impressionné de ce qu'il a vu en Allemagne. Qu'est-ce qui l'a impressionné? Non pas tant les canons, les défilés militaires, mais les foules, la population. Et il aurait dit, ou un hiérarque aurait dit à ce moment-là, que Mussolini pensait qu'un peu de Prusse, Prusse au sens de Prussien, donc d'Allemand, ne ferait pas de mal aux Italiens. Et je pense que ce voyage en Allemagne a été décisif parce que Mussolini a compris que les choses allaient beaucoup plus vite en Allemagne qu'en Italie et que Hitler, était en train de réussir à faire beaucoup plus vite donc ce que lui-même avait cherché à faire, c'est-à-dire construire une nation compacte derrière le dictateur, derrière l'État. Il y a ce sentiment, au fond, qu'il a été distancé, dépassé, donc, par Hitler dans ce projet de construction d'une société totalitaire. Enfin, et puis je vais bientôt m'arrêter, parce que ça fait presque une heure, je crois, que je parle. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut donner à réfléchir aussi, si on veut faire ce jeu de concordance des temps et d'aller-retour entre le passé et le présent, il y a une forme de conformisme croissant des régimes nationalistes dans les années 30 qui, à mesure qu'ils arrivent au pouvoir, deviennent tous antisémites. Mussolini a pu s'apercevoir, d'ailleurs, les fascistes ont pu s'apercevoir. D'ailleurs, ils ont tenté. Il y a eu, au début des années 30, en 1933-1934, il y a eu des projets de mise en place d'une internationale fasciste. Et des réunions sont intervenues à ce sujet. Et Mussolini a vu que l'Allemagne devenait de plus en plus le modèle pour les mouvements nationalistes. Et d'autant plus que l'Allemagne va être, une fois que Hitler est arrivé au pouvoir, va être très active, va financer des mouvements, des partis, comme le fait d'ailleurs l'Italie aussi, partout où elle peut. Et donc, si Mussolini ne veut pas être totalement distancé, il devient difficile, voire impossible, de garder ce qu'il a présenté comme pendant des années comme étant la spécificité du fascisme italien par rapport au national-socialisme, c'est-à-dire l'absence d'antisémitisme. Il y a des discours où Hitler disait « Oui, nous, on est nationalistes, mais à la différence des Allemands, on n'est pas antisémites, il n'y a pas de question juive en Italie, etc. etc. » Et donc, cette différence, tenir cette différence dans une Europe qui est en train de devenir et nationaliste et antisémite, devient de plus en plus difficile pour un régime qui prétend rester un des pôles donc, de référence en matière de nationalisme. Alors, pour ces raisons, parce qu'il faut maintenir en route, en mouvement, cette machine totalitaire, parce qu'il faut bien un ennemi, parce que dans la tradition longue idéologique de l'antisémitisme, les Juifs ont toujours fait office de contre-type. Eh bien, pour toutes ces raisons-là, effectivement, en 1938, donc Mussolini va adopter les lois raciales. Alors, et j'en termine avec ça, ce qui est quand même intéressant dans cette affaire et ce qui rend très pessimiste aussi, c'est qu'à la différence de l'Allemagne ou à la différence de la France de Vichy, il n'y avait guère de tradition d'antisémitisme politique et social en Italie. Il y avait un antisémitisme à matrice religieuse, catholique, de l'Église, mais pour qui, pour toute une série de raisons, ne s'était pas transformé en antisémitisme politique sous forme de partis, de ligues, de best-sellers, de pamphlets. Si on compte, par exemple, les ouvrages, les pamphlets ou les livres de littérature antisémite politique qui existaient avant 1938, il y en a moins d'une dizaine hein, en Italie. Après, ça va proliférer. Après 1938, ça va proliférer. Et donc, il n'y avait pas véritablement de tradition. Eh bien, en l'absence, alors que sous Vichy, par exemple, je veux dire, lorsque Pétain adopte, sans d'ailleurs le clamer sur les toits, les statuts des Juifs, lorsque les statuts des Juifs sont votés, ça répond à une demande sociale, hein, en partie. Il y avait des médecins, il y avait des professions qui s'étaient plaints de la concurrence des Juifs. Et donc, en dépit du fait qu'il n'y a pas de tradition, eh bien, ça marche, c'est-à-dire que ces lois anti-juives vont être appliquées de manière sévère, les administrations vont produire de la norme, vont produire de la surenchère, et très rapidement, les Juifs vont effectivement passer du statut de nationaux, citoyens. Citoyen, ça a plus grand sens sous le fascisme, mais en tout cas de gens qui étaient comme les autres au statut de paria. Et je terminerai donc en citant Primo Levi. Primo Levi qui a expliqué donc que une fois que les lois anti-juives ont été proclamées, donc il y a des Italiens qui l'ont aidé, d'autres qui lui ont tourné les épaules. Mais ce qui le frappait, eh bien, c'est que quand il croisait des gens dans la rue, il sentait dans le regard des individus une petite lueur qui montrait bien que désormais, il n'était plus perçu donc, de la même manière. Et donc, la norme fonctionne, les Juifs sont exclus, la propagande fonctionne, et lorsque la République de Salo, dans le centre nord de l'Italie sera proclamée, eh bien, toute une partie de la population et la police du régime vont contribuer donc à l'organisation des déportations donc des Juifs d'Italie. Donc, pour terminer, que montre cette affaire? Eh bien, elle montre que ce régime, même s'il n'a pas atteint le degré de terreur qui existait dans l'Allemagne nationale-socialiste, était effectivement un régime totalitaire. Le projet totalitaire n'a pas été mené à son terme, mais il a bel et bien existé. Merci.
Merci beaucoup.